À voix nue. Cette semaine, Serge Toubiana rencontre Margaret Mengoz. Ce soir, les années d'apprentissage.
Bonsoir Margaret Mengoz. En 1975, vous devenez employée dans la société Les Films du Losange, dont les fondateurs sont Éric Rohmer et Barbet Schroeder. Vous y entrez comme standardiste, secrétaire, gouvernante, fée du logis, pour vous occuper de l'intendance. Pendant que les deux cinéastes préparent ou tournent leurs films, récit de vos années d'apprentissage. Comment êtes-vous entrée au Film du Losange ?
Eh bien, parce que j'ai eu les enfants. Et je pouvais plus partir avec mon mari sur un coup de fil n'importe où pour faire un documentaire. Mon fils était resté une fois presque 30 heures tout seul dans l'appartement parce que la baby, on devait partir, il y avait l'avion, la babysitter était en retard et finalement elle a pas pu, il a appelé une copine qui a appelé une copine, enfin ça s'est perdu dans le sable. Et c'est la concierge qui s'est aperçue que c'était bizarre qu'il y avait un petit enfant là-haut. Et que il y avait personne. Donc ça m'a fait très très peur et j'ai décidé de trouver un travail qui me laisse à Paris. Et un oncle de mon mari était travaillait au CNC. Il était responsable de la production et de la distribution et de l'exploitation. Et donc je lui ai demandé s'il pouvait pas me trouver un boulot qui me laisse à Paris, parce que je voulais rentrer tous les soirs à la maison. Et donc, il m'a dit, donc, je connais deux garçons, là. Ils sont tous les deux metteurs en scène. Entre parenthèses, Barbet a fondé les Films du Losange en mettant en gage un tableau de Nolde, Eric Nolde, qui était un peintre expressionniste allemand. Et Rohmer est venu qu'après.
Ah d'accord, voilà. Pardon, oui c'est
mais
vrai.
Mais ils se sont associés tout de suite. Enfin, en tout cas, moi, quand je suis arrivée, ils étaient ensemble au Losange. Et on me dit, il y a deux garçons là qui ont un film à faire chacun comme metteur en scène. Ils cherchent quelqu'un, comme tu as dit, pour garder la maison, payer les factures, répondre au téléphone, faire les lettres, de régler les fournisseurs qui va faire, enfin bon, tout ça. Ça m'allait très bien. Donc, Rohmer faisait marquise et von O, et Barbet faisait maîtresse. Donc, Rohmer, il y a dans la, c'était une coproduction avec l'Allemagne, mais majoritairement allemand, parce qu'il a fait le film en allemand. Et il y a un métier à la télévision allemande qui n'existe pas en France, c'est les rédacteurs, qui sont responsables de tout scénario dans lequel la chaîne s'engage. Et déjà à l'époque, on avait besoin d'une chaîne pour financer le coût d'un film. Et donc, il me donne, la première chose qu'il me donne, c'est l'adaptation de la nouvelle de Kleist, à sa façon. Je lis ça, et je trouve que c'était, que c'est pas bon.
C'était écrit en français ou en allemand?
En allemand.
En allemand.
Et donc, j'ai relu la nouvelle de Kleist, parce que dans les débuts de lycée, on étudiait Kleist. Et en fait, c'est une nouvelle qui est écrite comme un scénario. La marquise regarde par la fenêtre, se retourne, se lève et dit à sa mère. C'est un découpage, ça.
Un découpage, oui.
Voilà. Donc, j'ai trouvé que lui, il avait fait un tas de fioritures. Et c'est très drôle en allemand. Parce que cette folle de marquise qui se trouve enceinte et qui prétend qu'elle ne sait pas de qui... qu'elle n'a rien fait qui lui permettrait d'être enceinte, c'est quand même un peu bizarre pour une femme adulte qui a déjà deux enfants.
Oui.
Et c'est très, assez comique, les rumeurs dans le village, son attitude à elle et tout ça. Et donc, on a, Rohmer écoute et il me dit, écoutez, ça va être l'été, ne pouvez pas caser vos enfants quelque part, pas de famille, et parce que je voudrais qu'on aille à Berlin rencontrer les acteurs, tous les acteurs qu'il avait prévus, c'était les acteurs de la Schaubühne, qui était un puissant et grand théâtre.
Dirigé par Peter Stein à l'époque,
Peter Stein, c'est ça, oui. En Allemagne. Il y avait Stein et Gruber qui travaillaient.
Gruber, oui, bien sûr.
Et j'ai dit oui, mais il faut attendre que les vacances arrivent. Donc les vacances sont arrivées. On est allé voir les acteurs allemands. On leur a exposé que le scénario du rédacteur allemand convenait pas à Eric. Eric lisait très bien l'allemand, il le comprenait très bien, il l'écrivait très bien, mais pour parler, il était trop perfectionniste, ouais. De peur de se tromper dans la grammaire, dans les accords, des verbes et tout ça, il préférait pas parler allemand.
Donc vous étiez là pour ça aussi.
Oui, voilà, bien sûr. Et donc essentiellement pour ça.
Et vous intimidez ou pas, Eric Rohmer?
Non, parce que j'ai trouvé c'est très bien et très logique ce qu'il disait. C'était pas, j'avais un peu peur de, parce que je suis pas une intellectuelle. Et lui, il avait la réputation d'être quand même un artiste, un intellectuel et tout ça. Mais il me parlait, d'une façon parfaitement compréhensible par moi et logique. Il était très, très clair, très pragmatique. Il savait comment il voulait faire les films. C'était très simple avec lui. Et donc les acteurs sont tombés d'accord avec nous, ils étaient enchantés.
Enfin, Edith Cleaver, par
Edith
exemple.
Edith Cleaver, Bruno Ganz, Udo Samel, Peter Lure. On a enchaîné sur la préparation du film. Et puis j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Les Rohmer n'avaient jamais eu d'assistant. Donc il y avait une scène où la marquise et ses parents habitaient à Châteaufort. Et les adversaires italiens avaient pris le Châteaufort et avaient fait prisonnier le père, etc. Donc il fallait montrer un petit bout d'assaut sur le château. Donc c'est vraiment un boulot d'assistant, c'est-à-dire de réunir les figurants loin de la caméra, les faire marcher, les faire courir, les faire crier, enfin, et tout ça. Donc j'ai fait ça. C'était un tournage de nuit. J'étais épuisée et Rohmer a dit, maintenant on va faire l'exécution des prisonniers. Et tout le monde était hors service, sauf lui, qui était quand même plus âgé, nettement plus âgé que nous tous. Il partait, il me dit, voilà, par exemple, ce mur-là, donc il fallait réunir les troupes, remettre les armes et tout ça. Et donc c'était une expérience assez enrichissant, parce qu'en fait, il s'enfermait avec les chefs opérateurs, les acteurs.
Le chef opérateur, c'était Nestor Almendros,
qui m'avait fait construire tout autour du château. C'était un château, on tournait dans un château fort aussi. Il y avait des douves et le rez-de-chaussée était naturellement au-dessus des douves. Il avait fait construire des échafaudages tout autour de la bâtisse et on mettait des projecteurs dessus. Comme ça, on n'était pas tenu par le voyage du soleil autour de la maison. Il rentre par les fenêtres, il rentre plus les raccords de lumière, enfin, tout ça, j'étais émerveillée de la simplicité et du pratique de tout ça. Et donc, il s'enfermait, il y avait Nestor, Rohmer et moi, et il faisait rentrer les acteurs et il leur faisait jouer la scène, au départ sans aucune indication. Et après, il voyait comment il faisait, quand est-ce qu'elle s'approchait, quand est-ce que... On avait la difficulté parce que Edith Cleaver, elle avait une beauté incroyable, la force des épaules, la nuque, etc. Mais elle a des tout petits yeux. Et Nestor s'en plaignait beaucoup. C'est pas très commode pour au cinéma des yeux trop petits. Et Rohmer dit, ça fait rien, elle va s'exprimer avec sa nuque. C'est ce qu'elle a fait. Et c'est ce qui est dans le film, et c'est absolument formidable. Quand on croit voir la chair de poule sur sa nuque, on est...
Qu'est-ce que vous avez appris de Eric Rohmer? Comment vous êtes adapté à son économie du cinéma, quoi, disons?
J'ai appris l'essentiel de l'économie du cinéma avec Eric. Il était très conscient que pour avoir la liberté pour un auteur, il fallait raccorder le coût d'un film et ses recettes. Parce que la seule chose qui donne la liberté, c'est d'avoir de l'argent pour entreprendre le film d'après. Sans attendre l'avance sur recette, les télés, les distributeurs et tout ça. Donc c'était une belle leçon d'économie, extrêmement, extrêmement sérieuse. Et c'est pour ça que tous ces films, à part Perceval le Gallois qui était nettement plus cher, mais tous ces films avaient une économie extraordinaire. On n'avait pas les VHS encore à cette époque, mais on allait aussi avec les acteurs. Je devais louer les décors, on allait avec les acteurs dans le décor et ils filmaient. Et c'était ça pour faire son découpage et pour, en 8 mm. Parce que en plus, quand la VHS est arrivée, ça ne l'intéressait pas parce qu'il ne pouvait pas monter. Il fallait une machine spéciale, un ordinateur, je sais plus quoi. Enfin, ça, il n'avait pas. Donc, on a continué sur 8 mm. Il avait une petite colleuse pour le 8 mm, des petits scotchs, et on projetait les séquences montées sur le mur blanc de son bureau. Ça lui permettait d'arrêter définitivement son découpage. Et comme il répétait avec les acteurs, on faisait au maximum 2 prises.
Et qu'est-ce que vous avez appris avec Barbet Schroeder? Parce que ces deux hommes étaient très proches. Barbet Schroeder était beaucoup plus jeune qu'Éric Rohmer, mais lui, c'est plutôt
exactement mon âge, Barbet.
C'est un aventurier. Lui, c'est plutôt quelqu'un qui est attiré par les grands espaces, l'Amérique latine.
Mais je peux pas dire qu'ils étaient très proches. Ils se montrent leurs films. En premier, chacun montre son film à l'autre. Oui. Mais je me rappelle, par exemple, la projection des maîtresses à Rohmer. Rohmer était par terre parce qu'il y a des choses qu'il ne supporte pas de voir. Oui. Toutes les tortures, sadomaso et tout ça, c'est quelque chose qui révulsait complètement. Ils n'avaient pas des choses communes dans la façon de faire les films. Mais Barbet avait une grande admiration pour Rohmer. Il avait quand même, j'ai pas mis ses tableaux en gage pour que pour qu'il puisse aider Rohmer. Rohmer était au Cahier du cinéma, rédacteur en chef, et Barbet, ou elle est peut-être pas encore rédacteur en chef, et Barbet était journaliste. Enfin, il traînait au Cahier du cinéma parce qu'il trouvait que c'était la chose la plus passionnante qui s'est passée cinématographiquement en France à l'époque. Et donc, il a toujours... Rohmer était la priorité pour Barbet et forcément pour moi. Parce que c'était décidé ainsi. Les losanges marchaient comme ça. Rohmer faisait un film par an à l'époque. On n'avait pas le temps de souffler. Et Barbet est parti quand même assez vite aux États-Unis en me laissant le Bins, quoi. Enfin, en me laissant Rohmer et tout ça.
Il y a une époque aussi qui est très intéressante au sein des films du losange, où il y a comme un axe franco-allemand. Donc il y a Wim Wenders, l'ami américain, en 1975, il y a Rainer Fassbinder, il y a Schroeter, il y a Margaret von Trotta. Donc
ça, c'est naturel, si vous voulez.
Alors comment ça vient?
Comme Rohmer avait, une fois qu'on avait fini un film, Rohmer avait 5, 6, 7 mois
D'écriture, de préparation.
Et j'étais pas complètement impliquée quand la préparation était lui et les acteurs dans son bureau avec une tasse de thé, j'avais rien à y faire. Oui. Donc j'avais du temps, je m'ennuyais. Oui. Barbet étant parti, et ça s'est fait tout naturellement, l'axe losange, Berlin et Munich. Parce que ils ont su que je parlais bien l'allemand. Enfin bon, c'était un point de chute évident France.
Et puis il y avait un cinéma indépendant allemand qui était à l'apogée à l'époque.
À l'apogée, absolument. Oui, mais enfin il y avait beaucoup de producteurs en France, mais je crois que personne parlait allemand.
Vous pouvez me parler par exemple de quelqu'un comme Klaus Helwig. Quel était son rôle?
Klaus Helwig, eh ben, c'est lui qui était le coproducteur majoritaire de Marquise von O.
Ouais.
Parce que j'ai compris que plus tard, qu'il avait fait un accord avec Leo Kirch. Leo Kirch était un financier allemand qui avait le goût du cinéma. Et chez lui, dans ses bureaux à Munich, qui était un petit gratte-ciel de 8 étages, 10 étages, je me rappelle, il y avait comme un silo au milieu avec les copies 35, comme dans une tour pour les pigeons, comme ouais. dans un pigeonnier,
ouais.
où chaque pigeon a son nid. Ben là, il y a chaque film qui avait, chaque pile de bobines qui avait son nid. Donc, ça lui donnait de l'argent. Enfin, il travaillait avec l'argent de Leo Kirch. Et donc, il nous a aidé beaucoup, beaucoup pour
produire des films.
Mais j'avais compris aussi, en réfléchissant, qu'il fallait pas se lier avec quelqu'un pour toute la durée de la vie d'un film, par exemple. Encore moins pour deux films ou trois films. Donc, je faisais les contrats de coproduction pour 10 ans. Et au bout de 10 ans, le contrat était terminé. Il n'était plus coproducteur. À l'époque, on n'était pas encore distributeur ni vendeur international, mais ouais. je voulais pas être lié avec les films entre les mains de quelqu'un, parce que Klaus, il pouvait passer sous un autobus, moi aussi, comment on allait résoudre si le film lui appartenait majoritairement? Et donc, ça s'est résolu assez vite. Et
vous avez produit Roulette chinoise en 76?
Oui. On a fait Roulette chinoise.
Des acteurs français, Anna Karina.
Oui, c'est ça, Macha Merrill.
Macha Merrill.
Mais il était déjà un peu fatigué.
Oui.
Déjà très pris par les substances. Et il était torse nu, en gilet de cuir noir, avec son jeune ami Raoul, et tatoué les bras, le torse, le peu qu'on voyait du dos également. Il fallait faire le noir dans les pièces, baisser les stores. Il était très, déjà très dépendant de substances.
Mais cette époque, vous la caractériseriez comment? C'est un peu l'âge d'or du cinéma indépendant en France, en Allemagne. Parce qu'en France, il y a Rivette, il y a Eustache, il y a Marguerite Duras.
Ah,
tous ces gens ont fréquenté les films du Losange.
Absolument. Et on a fait un film avec un ou deux, avec chacun d'eux. Mais je me rappelle, j'étais allée avec mon mari à un festival en Allemagne qui s'appelle le Festival de Oberhausen.
Oui.
Les cinéastes allemands avaient déjà commencé à remuer beaucoup.
Créer un manifeste.
Un manifeste pour leur indépendance, etc. Et puis, donc, ça a été annoncé au Festival de Oberhausen. Je me rappelle plus quelle année, mais 72, 13, par là.
Oui, je sais.
Et je me suis trouvée à une table avec les officiels. Et puis, en fait, ils se moquaient des cinéastes, disaient, bon, voilà, on fait ça, on leur donne un peu d'aide, comme ça, ils se tiendront tranquilles, on n'aura pas d'embêtement, ils se débrouilleront, etc. Et puis, il y avait un grand souci, volonté, mais farouche, des cinéastes allemands de se libérer de l'Allemagne.
Bien sûr.
Wim Wenders est allé aux États-Unis, ouais. en Amérique, etc.
Werner Herzog aussi.
Volker était assistant de Louis Malle en France, et donc il a naturellement enchaîné sur des productions de lui, surtout depuis qu'il a eu la Palme d'Or ex aequo avec Apocalypse Now pour Le Tambour, qui était un événement. Je me rappelle, on nous disait à l'époque que les jurys étaient extrêmement déchirés entre le film de Coppola et Le Tambour, qui était un ovni, parce qu'en fait, on avait oublié qu'est-ce que c'était réellement l'Allemagne.
C'est François Sagan qui présidait le jury.
Oui.
Elle était contre le film de Coppola, vous vous souvenez?
Oui, je me rappelle très bien. Et en plus, elle a eu, alors là, c'était pas très correct, elle a expliqué ça après, publiquement, dans la presse. J'ai trouvé que ça se faisait pas, même si c'était en faveur de Schlöndorff. Et avec Schlöndorff, après, est venue Marguerite von Trotta, parce qu'ils étaient mariés et femmes à l'époque. Ça s'est fait naturellement, comme ça.
Mais vous y êtes pour quelque chose. Vous étant franco-allemande ayant la double appartenance culturelle, est-ce que ça favorisait l'accueil de cinéastes allemands au Lausanne?
Oui, la langue. Comme j'étais pas une intellectuelle et comme eux, ils étaient quand même très, ils avaient beaucoup pensé le cinéma, ils étaient tous dans la mouvance de Kluge, d'Alexandre Kluge, qui était un grand théoricien, le maître à penser de toute cette bande. Et franchement, moi, ça m'ennuyait un peu, j'aime le concret. Je n'aime pas tellement les projections stratégico-philosophico compliquées.
Mais toute cette génération, je pense à Wim Wenders, l'ami américain qui est quasiment dédié à Henri Langlois.
Oui.
Ils ont tous fréquenté la cinéphilie française.
Ils se sont nourris. C'était leur modèle. C'est l'inventivité des cinéastes français appuyée par la liberté financière qu'avaient les films français, à cause du CNC, à cause des Malraux qui avaient instauré l'avance sur recette, à cause de 74, l'éclatement de la télévision publique, l'ORTF, l'obligation d'investir dans les films pour les trois chaînes publiques de l'époque, la création de la SFP. À l'époque, on manifestait dans les rues contre la SFP parce que on pensait que tous les producteurs seraient mis en faillite grâce à l'existence de la SFP, filiale des chaînes publiques, qui allait truster toute la production. Bon, elle a fait faillite bien avant nous.
Bien sûr.
L'ami américain, Wim Wenders, 1977.
We made it anyway, Jonathan. Be careful.
Il y a une question que j'aimerais vous poser, Margaret Mengos. C'est un peu ma conviction, mais je ne suis pas sûr qu'elle soit vraie. J'ai l'impression qu'en Allemagne, le cinéma n'est pas un art aussi important, aussi reconnu, aussi respecté qu'en France, parce que on préfère le théâtre et la musique, qui sont des arts beaucoup plus nobles, disons.
Oui,
est-ce que vous le confirmez, ça?
Oui, complètement. Parce qu'il y a aussi eu la grande saignée de départ de tous les grands cinéastes allemands.
Pour Hollywood.
Parce que c'était pas possible de travailler sous le nazisme.
Bien sûr.
Et même très tôt. C'était dès les années 33, jusqu'à la fin de la guerre, c'était impossible. Il y a Arthur Brauner qui a récupéré Fritz Lang à son retour des États-Unis pour faire le tigre du Bengale et je sais pas quoi encore, mais enfin, c'était comme
le tombeau hindou.
Le tombeau hindou. C'était la première fois. Mon mari était membre du jury à Cannes du court-métrage. À l'époque, il y avait un court-métrage. Et c'était Fritz Lang et Charles Boyer qui étaient co-présidents du jury des films de long-métrage. Et donc, c'était l'aveugle et le paralytique. Parce que Fritz Lang avait un bandeau et Charles Boyer marchait avec une ou deux cannes selon l'état de sa fatigue. Donc il y avait ce départ. Donc, il n'y a pas eu immédiatement de successeur pour la place qu'ont laissé tous ces cinéastes. Et après la guerre, c'était quand même très difficile. Rien n'était préparé. Ils n'ont pas eu de Malraux. La Constitution a donné la souveraineté culturelle et de l'éducation aux Länder. C'était plus national. Justement par précaution pour qu'il n'arrive pas une propagande comme dans le régime des nazis. Et donc c'était très difficile. Il n'y avait pas d'argent pour faire. On ne peut pas faire du cinéma sans argent. Et on peut, si vous voulez, les grandes nations actives dans la réalisation, dans la production, ça marche ensemble à mon sens, du cinéma, c'est des pays qui ont eu soit un soutien financier comme faisait la BBC. Pendant des années, les auteurs anglais ont travaillé pour la BBC.
Bien sûr.
Parce qu'il n'y avait pas d'autre financement possible pour les films anglais. Soit comme aux États-Unis, le pur commerce. Et donc là, il faut être très malin. Ça rejoint un peu ce que disait Romer. Il faut que le film rapporte plus que ce qu'il n'a coûté. À ce moment-là, vous étiez persona grata à Hollywood. Vous faisiez de l'argent. C'était extrêmement respectable. Mais vous pouvez pas faire des pertes d'argent dans le système du pur commerce.
Dites-moi, à cette époque, vous, autour du losange gravitent Jean Eustache, Jean-François Stévenin, Jacques Rivette, Frédéric Mitterrand, son film « Lettres d'amour en Somalie », Marguerite Duras, bientôt Jean-Claude Brissot, on en parlera. On a l'impression que tous ceux-là sont des francs-tireurs un petit peu.
Oui.
Qu'est-ce qui fait qu'ils arrivent vers le losange?
Eh bien, presque tous, ou par Barbet ou par Homer.
Oui.
Jean Eustache, par exemple, Marguerite Duras, ils sont tous venus parce qu'il y avait, je pense, une petite organisation, une petite cellule travailleuse.
Oui.
Ils n'étaient pas avec les Braunberger, enfin les Anatole Dormand, qui étaient des producteurs assez élogieux vis-à-vis d'eux-mêmes.
Plus établis déjà, plus.
Très établis. Oui. Et puis moi, les dîners chez Anatole Dormand, ils parlaient de lui comme d'un dieu.
Oui, c'était un prince un petit peu.
Oui, c'était un prince. Et puis, les auteurs n'ont pas forcément envie de ça. Voilà. Ils ont envie qu'on les aide.
Oui.
Ils n'ont pas besoin d'écouter les éloges faits par le producteur lui-même pour lui-même.
Oui.
Ça ne les intéresse pas. Il faut être là et comprendre de quoi ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils souhaitent et le rendre possible.
Pour terminer ce deuxième volet avec vous, sur vos années d'apprentissage, quand on pense à Éric Rohmer qui produit un film par an, c'est très moderne. On dirait qu'il fait presque de la série, comme aujourd'hui, un jeune cinéaste fait une série. Il a tout le temps, il fait ses séries, Comédies et Proverbes, oui. Les Contes moraux. C'est très contemporain, non?
Oui, il a toujours, depuis le début, depuis La Collectionneuse, il a conçu
son œuvre
en série. Parce que c'était une source, une règle, une source d'inspiration et un cadre. Quand il a les comédies proverbes, c'était tourné dans le désordre, enfin, d'après les numéros qu'il leur a donnés à fur et à mesure. Après, on a fait deux films hors série qui étaient justement La Marquise von O et Perceval la Galois, deux films historiques, et puis on a enchaîné sur les comédies proverbes. Et c'était conçu au départ, puis sur les contes de quatre saisons, il a toujours conçu ses films avec des thèmes. C'était un proverbe pour les comédies proverbes. Pour les contes moraux, c'était vraiment une petite leçon de morale à chaque fois. C'était une sécurité pour lui-même intérieure. C'est-à-dire de pas rester. Quand un film est fini, soit il marche, soit c'est un très grand succès, comme c'est arrivé avec Rohmer plusieurs fois, soit c'est un échec, comme c'est arrivé aussi, quelquefois, de pas rester dans le vide.
Voilà.
De connaître le prochain ouvrage, de l'attaquer tout de suite, de travailler tout de suite à la préparation, voilà.
Un exemple de liberté aussi.
Ah oui, bien sûr. C'est une nécessité pour Rohmer absolue, la liberté.
Merci Margaret Mengoz. On se retrouve demain soir.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Serge Toubiana avec Margaret Mengoz. À voix nue. Réalisation Thomas Duterre. Prise de son Laurent César. Attaché de production, Daphné Abgral. À voix nue se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr.